France Inter.
On a un rôle qui est très discret, c'est-à-dire que peu de gens le connaissent. Le statut de visiteur, il a existé depuis l'après-guerre. Dès qu'il y a eu des lieux d'incarcération, il y a eu la possibilité de visiter. Donc la notion de visiteur, elle a existé presque en parallèle avec la notion de prison.
Ils sont 1300 visiteurs et visiteuses de prison en France. Des femmes et des hommes qui croient en une justice humaine, qui pensent qu'il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sanction ne peut retrancher, le droit de devenir meilleur, comme l'écrivait Victor Hugo. Devenir meilleur, même en prison, même coupable, pensait Robert Badinter, le défunt garde des Sceaux, qui a aboli la peine de mort en 1981 et s'est battu toute sa vie pour améliorer le quotidien des détenus. Les visiteuses et visiteurs de prison sont tous des bénévoles. La plupart ne connaissaient rien au monde carcéral avant de franchir un jour la porte d'un établissement pénitentiaire à la rencontre de détenus dont ils ne savent rien d'autre que le nom, le prénom et le numéro d'écrou.
Ça fait à peu près 10 ans que je suis visiteur de prison. Mais au début, j'y allais vraiment avec, des a priori, bien sûr, plein d'a priori. Mais en fait, au bout du compte, j'ai fait des rencontres humaines en prison. Incroyable, quoi.
Pour devenir visiteur de prison, il faut être majeur et avoir un casier judiciaire vierge. Beaucoup ont l'âge de la retraite quand ils se lancent dans cet engagement au parloir, à l'ombre des miradors. Les visiteurs viennent simplement parler avec les détenus. Leurs visites sont perçues comme des bouffées d'oxygène, surtout pour les détenus qui ne voient plus leurs proches. Un prisonnier sur deux n'a plus aucun lien physique avec sa famille durant l'incarcération.
J'ai 22 ans de prison derrière moi. J'ai rencontré Jean-Paul, ça fait 7 ans maintenant. Je suis sorti de prison il y a 5 ans, donc ça a été mon visiteur de prison. Et aujourd'hui, c'est mon parrain, mais c'est également mon ami.
Dans les prisons françaises, emplies de 75 000 détenus, un record, avec un taux de surpopulation carcérale dépassant parfois les 200%, les 1300 visiteurs jouent un rôle précieux. Ils sont une fenêtre sur l'extérieur, un trait d'union vers la réinsertion. Visiteurs de prison, une lumière derrière les barreaux. C'est un reportage de Romane Brizard, accompagné par Virginie Lorda et Sandrine Malon à la prise de son.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
On y va ?
Oui, on y va. Alors, je prends ma montre parce que quand j'arrive au parloir, j'ai besoin d'avoir l'heure, j'ai pas le droit d'emmener mon téléphone portable en prison. Donc habituellement, je porte pas de montre, mais pour pouvoir voir un peu combien de temps je passe avec chaque personne, je prends ma montre. Et puis dans mon sac aussi, je mets un livre, puisque ça peut arriver que j'attende un peu avant que quelqu'un puisse me rejoindre au parloir. Pour X raisons, il peut y avoir un surveillant qui n'est pas disponible, une partie de la prison qui est bloquée. Et donc, si jamais je dois attendre un petit peu, ça fait patienter d'emporter un livre. Bon, ben voilà, je prends mon sac, on y va ? Allez, c'est parti. Je m'appelle Agnès Chauveau et je suis visiteuse de prison depuis 6 ans. J'interviens au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. J'exerce cette mission dans la prison qui est la plus proche de chez moi. J'y vais chaque semaine. Je réserve en principe mon vendredi après-midi pour faire mes visites en prison.
Vous avez combien de rendez-vous chaque semaine ?
Alors, je rencontre deux personnes pendant environ une heure chacune. En général, je vois d'abord un monsieur, environ entre 15h et 16h, et ensuite une dame entre 16h et 17h. En sachant que c'est un peu variable l'heure de début et l'heure de fin, selon les aléas possibles de part et d'autre. On arrive, en effet, là, on voit le Mirador. Et puis, oui, tous ces grands bâtiments avec les murs en béton, entourés de grillages. Au milieu de la campagne, pas loin de la Nationale 10 non plus, la 4 voies qu'on vient de quitter, là, elle borde le centre pénitentiaire. Et quand on va sur Angoulême, par exemple, on les voit bien, ces murs en béton.
Alors on arrive sur le parking de la prison, on marche vers l'accueil. Devant nous donc, ces grands grillages verts très très hauts, et puis derrière, des murs, des blocs en béton. On vient de passer la première porte bleue. Voilà, alors les téléphones, il faut les mettre dans les casiers qui sont là. Là, vous tapez un code.
Alors, j'enferme mon téléphone. Et j'ai donc bien le droit de garder mon carnet et mon stylo ?
Tout à fait. Je vous donne un badge à chacune. L'objectif, c'est de passer sous le portique. Derrière, vous avez un tourniquet. Il faut badger pour pouvoir faire tourner le tourniquet. Tout le matériel doit passer dessous.
Manteau, ça devrait aller. Bon. Alors, je badge. C'est bon. Hop. C'est bon.
C'est bon. Allez, on fait un petit
contrôle.
Bonjour, madame. Ah, le petit contrôle du matériel. Donc, un microphone.
Deuxième porte. Et juste en face, une troisième. Troisième porte.
Ah oui, c'est bon.
Tiens, viens chercher les bonheurs.
À l'intérieur d'un bâtiment. On a quitté aussi les murs gris en béton de l'extérieur pour des murs jaunes. Encore des grilles au plafond même. Donc là, je pense qu'on en est à la 5e ou 6e porte. Et ça n'a pas l'air d'être terminé.
On arrive dans la zone de parloir avocat, là, en effet.
D'accord.
Voilà. Le surveillant va venir nous accueillir et nous permettre, nous attribuer un box pour effectuer cette visite.
Alors, on nous a désigné un box. Donc, c'est dans ce parloir que vous allez rencontrer la détenue que vous visitez.
Oui, c'est ça. C'est là qu'on se rencontre régulièrement, dans ce box où il y a une table de chaises pour pouvoir se parler le temps qui nous convient. En général, ça dure environ une heure. Parfois, ça m'est arrivé de rester plus longtemps quand la personne en a besoin et quand il peut y avoir une mauvaise nouvelle, par exemple, de l'extérieur, ou quand il y a un moment particulier dans le parcours de peine, avant le jugement ou après le jugement, où là, les gens ont plus besoin de parler... parce que c'est des moments chargés, en fait, psychologiquement, quoi.
Donc on va s'installer en attendant cette dame.
C'est ça, on va l'attendre là.
Bonjour.
Bonjour Emma.
Bonjour Agnès.
Vous allez bien ?
Ça va, en pleine forme.
Bon. On va s'installer alors ?
Oui.
C'est parti.
Bon, alors comment allez-vous depuis la semaine dernière ?
Toujours un plaisir de vous recevoir. Enfin, j'ai l'impression que je vous reçois.
C'est ça. Moi, je prends comme ça.
Oui, vous avez eu des nouvelles de votre famille récemment, alors ?
Bah, comme tous les week-ends, ça a été un week-end téléphone. Donc j'ai pu avoir mon fils plus longuement à La Réunion. Il n'a pas été touché par le cyclone, mais il a été touché par la tempête. Donc il a eu sa voiture qui a été emportée. Mais bon, c'est que du matériel, comme il dit. Sinon, tout le monde va bien, tout le monde se passe bien. Et puis, j'étais rassurée. Et puis, là, vraiment, on a eu une bonne conversation, comme toujours. C'était un bon moment.
On on parlait de votre sœur aussi la semaine dernière et de ses projets de venir vous voir peut-être l'été prochain. Elle habite loin en Guyane, c'est pas si simple à organiser. Vous avez des nouvelles de ce projet ?
Ben, elle va venir et puis on va faire un UVF pour avoir le droit de se voir en unité de vie familiale. Donc on restera toute la journée ensemble. C'est mieux que le parloir où on reste une heure et demie. C'est plus important, il y a tellement de choses à dire, à raconter, surtout qu'on se voit une fois par an. Voilà, c'est la bonne nouvelle.
Emma a été condamnée à une peine de 20 ans de réclusion pour le crime qu'elle a commis. Elle préfère ne pas évoquer les raisons de sa peine à notre micro.
Bon, je m'appelle Emma, j'ai la soixantaine. De la vie avant, je vivais en Alsace. J'ai travaillé dans l'enseignement, j'ai aussi travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans le vin. Donc j'ai un parcours un peu atypique. Moi, je suis maman de 3 enfants et de 7 petits-enfants.
Et ça fait combien de temps que vous êtes ici ?
Ça fait 5 ans et demi. Et ça fait 1 an et demi que je suis jugée. Donc il m'a fallu attendre 4 ans avant d'être jugée. C'est un jugement assez lourd, mais c'est vrai que le fait de ne pas être coupée de l'extérieur, c'est quelque chose qui est très important.
Est-ce que c'est votre jour préféré, peut-être le vendredi ?
Oui, je sais que c'est le jour où je vais avoir Agnès, donc c'est quelque chose qui est important. Je dis, je vais pouvoir discuter, je vais pouvoir parler, je vais pouvoir rencontrer Agnès, qui est une dame formidable. Ce sont des liens quand même qui sont assez forts. On a partagé aussi des moments d'intimité. On a partagé beaucoup de choses. Et se dire aussi qu'une personne comme Agnès a pensé à moi, c'est se remettre en tant que sujet. Ce qui fait du bien avec les relations de prison, avec les visiteurs de prison, c'est qu'on est considéré comme des personnes à part entière. Puis vous apportez tellement de lumière dans cette zone sombre, c'est un vrai plaisir. En plus, on débat de tout et de rien. On a des conversations très légères comme on a des conversations très sérieuses. Et ça apporte énormément. Pour moi, c'est une ouverture vraiment sur l'extérieur, c'est quelque chose de très important.
Ça m'honore beaucoup, en fait, ce terme que vous employez. Je suis contente aussi, moi, de venir passer ce temps-là avec vous. Je trouve que nos échanges, effectivement, sont riches et intéressants. On s'intéresse pas forcément toujours aux mêmes choses, mais on a quand même trouvé des points communs assez facilement. Ça va de parler un peu de notre famille, de la cuisine qu'on a pu faire, de jardinage, mais aussi de politique, de livres qu'on a lus, de films qu'on a pu regarder. C'est très varié, en fait, nos sujets d'échange.
C'est digne d'un magazine People.
Des fois, je me dis, on pourrait faire un roman, en fait. On aurait pu, si on s'y était pris depuis le début, faire tenir un journal et puis en faire un livre. Parce que c'est quand même une relation au long cours. Depuis, ça fait plus de 5 ans qu'on se voit, hein, oui. C'est ça. En fait, à part vraiment mon mari que je vois tous les jours, mais je pense que vous êtes la personne que je vois le plus souvent en dehors de lui, en réalité.
Là, c'est maintenant, c'est moi qui trouve que c'est un honneur. Non, mais c'est vrai que depuis le temps qu'on se connaît, j'ai l'impression d'avoir une amie, même si ça reste dans un cadre carcéral et autre, mais il y a une relation qui s'établit quand même assez forte, puisqu'on a parlé aussi de choses très intimes aussi. On s'est livré, on a une relation vraie et sincère. Je trouve que c'est le point fort de nos entretiens. C'est une bulle où on peut être vraiment soi. Vous vous souvenez de la question que je vous ai posée la première fois que vous êtes venue ?
Oui, ça je me souviens très bien effectivement de notre premier entretien.
Je venais d'arriver en prison, donc j'étais quand même sous le choc carcéral, j'étais pas trop bien, j'étais pas dans mon assiette. J'avais pas de relation à l'extérieur. Et puis on m'a proposé une visiteuse de prison. J'ai dit ben pourquoi pas, j'ai dit ça serait l'occasion d'avoir quelqu'un avec qui discuter, échanger. Mais j'avais quand même des a priori sur les visiteuses de prison, pourquoi elles viennent. Est-ce que c'est pour faire du misérabilisme ? Est-ce que c'est pour venir nous voir, vous faire la dame patronesse ? Donc j'ai demandé à Agnès, quand elle est arrivée, quelle était sa motivation. C'était important pour moi pour savoir un petit peu où elle se situait et savoir dans quel type de relation je m'engageais.
Et puis, après, vous vous êtes excusée de m'avoir posé la question, comme si vous aviez eu l'impression de me demander de me justifier. Vous avez, semble-t-il, été rassurée par les explications que je vous ai fournies. Et du coup, vous m'avez dit aussitôt, « Ah ben, puisque c'est ça, je vais vous dire pourquoi je suis là. »
Oui, oui. Du coup, je me suis sentie en confiance parce que vous vous êtes livrée. Et du coup, je trouvais que c'était important de dire pourquoi j'étais là. C'était aussi une autre manière aussi de savoir aussi si vous n'allez pas être rebutée par mon parcours. C'était important aussi pour moi parce que ça faisait partie aussi de la reconstruction, quelque part, que de reconnaître ce que j'avais fait. Vous êtes la première personne avec qui je posais vraiment les mots sur ce que j'avais fait. Et c'était quelque chose de très important pour moi. Et ça m'a permis aussi de pouvoir libérer la parole auprès de ma psy. Ça a été déclencheur de plein de choses. Ça a été le début de plein de choses. J'étais au début de mon incarcération. C'était le début de la reconnaissance du travail que je fais sur moi-même. Et c'était le début de beaucoup de choses avec vous.
J'ai presque un parcours pour une personne qui n'est pas habituée de lire.
Alors on va quitter Emma et Agnès pour leur laisser un peu d'intimité avant la fin de ce parloir hebdomadaire. Et nous, on va se diriger vers le bureau du surveillant.
Attendez. Ah, écoute. Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord.
Voilà. Donc là, on est dans le poste de contrôle surveillant des parloirs. Vous, vous êtes surveillant, je ne peux pas donner votre identité. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette tour de contrôle? Je vois que vous avez beaucoup de caméras, d'écrans devant les yeux.
Donc dans mon bureau, j'ai les caméras de la zone. Au cas où il y a un souci, je vois les personnes qui arrivent, qui repartent, tout simplement. J'ai un petit registre qui me permet d'enregistrer l'heure d'arrivée, l'heure de départ de chaque personne, personne détenue et intervenant.
Est-ce que vous avez le sentiment que les détenus qui ont de la visite ont peut-être moins de difficultés à vivre avec les autres, peut-être moins de problèmes au sein du centre?
Ça leur fait du bien, ça se voit. On sent qu'ils ont besoin d'échanger, ils discutent bien souvent, ça a duré quoi, trois quarts d'heure, une heure, voire une heure et demie par semaine. On va les remarquer puisqu'on fait des rondes, on regarde aussi d'observation, on le voit bien qu'ils s'ouvrent à la personne, aux visiteurs de prison. Donc ça leur permet de se libérer un petit peu, on va dire. Mais après de changements notables vis-à-vis de la détention, je ne trouve pas. C'est-à-dire que quand ils sont en détention, au niveau de leurs cellules, sont vraiment en détention, ils vont agir de manière différente à quand ils seront sur la zone des parloirs. Donc ils n'auront pas le même rapport en détention avec le surveillant qui sera en détention, qui va lui dire non, qui va lui ouvrir les portes, etc. Ça ne sera pas le même rapport. Il y aura plus ou moins un rapport de force. Alors que là, ça sera, limite, il va s'entretenir avec une personne, donc il va s'ouvrir, il va parler, ça sera plus... ça lui fait du bien. On sent qu'il y a une différence, il n'est pas sous tension, entre guillemets. Ouais. Après, bon, on est en prison, on est dans un monde carcéral, il y en a à qui ça fait du bien. J'en ai déjà vu aussi, par exemple, quelques détenus demander à avoir une visiteuse de prison juste pour avoir à lui demander, à lui soutirer des choses, lui ramener des choses, donc par intérêt. Donc c'est pour ça, ça peut varier d'un détenu à un autre. Mais il y en a vraiment à qui ça fait énormément de bien, effectivement, de voir, ça serait nier de dire le contraire.
Il vous est déjà arrivé, du coup, de devoir rappeler à l'ordre des échanges entre visiteurs et détenus? Ah non, il ne faut pas donner d'objets, rien ne doit entrer, rien ne doit sortir, ça vous est déjà arrivé?
Oui, c'est déjà arrivé, parce que après c'est le règlement. Le règlement stipule que normalement, il ne devrait pas y avoir d'échange sans contrôle du surveillant entre un visiteur et un détenu, ou même un avocat et un détenu, sur la zone en tout cas. Sinon, ça passe par le courrier, puisque tout ce qui rentre dans la prison est censé être contrôlé. Donc voilà, donc ça m'est déjà arrivé, à moi comme aux collègues, effectivement, de devoir une petite remontrance, vite fait. Bon, après, c'est rien de méchant, hein, c'est pas, y a pas mort d'homme non plus, mais de leur rappeler le règlement, effectivement.
Récupère aussi
Non, voilà. Vos cartes d'identité, moi, ma carte de visiteur.
Ah bah. Alors, ça, c'est Roman. Ça, c'est. Donc à vous, Sandrine, c'est ça? Et moi, il manque ma carte de visiteuse. Il y a ma carte de visiteuse aussi, s'il vous plaît. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous êtes proche de la libération. Allez, bonne soirée.
Au revoir.
Faites à vous entendre, Robert Badinter, c'est comme si la France ne s'intéressait pas véritablement au monde carcéral. Vous en parlez dans l'un de vos livres qui s'appelle La prison républicaine, paru en 1992. La prison, c'est un tabou, encore.
C'est une forme de hors-champ social. On ne veut plus voir les délinquants. On les met en prison. On a l'impression qu'ils sont voués à y rester. Non, heureusement, ils sont voués à en sortir, ce qu'on oublie toujours. Et on a le sentiment, parce qu'on les a mis derrière des murs et qu'on ne les voit pas, que ça y est, c'est fait. Ils ont disparu de la société. Non, ils n'ont pas disparu. Ils sont là. Ils existent.
Et nous voilà de retour chez Agnès.
Agnès, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, ces parloirs du vendredi ?
En tout cas, c'est un jour que j'aime bien. J'y vais toujours avec plaisir, depuis plus de 5 ans en tout cas que j'y vais. Ça m'a jamais demandé un effort, en fait, de me dire cet après-midi je vais en prison. Voilà, c'est un jour particulier où peut-être je me sens utile aux autres, mais ça me fait du bien à moi aussi. C'est tellement important de savoir écouter les autres. C'est quelque chose aujourd'hui, peut-être qu'on a besoin de cultiver, voire même de retrouver, je ne sais pas. C'est une ouverture sur la diversité aussi. Enfin, c'est quelque chose qui forcément peut nous amener à nous poser des questions, travailler sur ses préjugés, ses a priori. Effectivement, le public que je visite en prison, a priori, peut sembler très éloigné du milieu dans lequel j'ai pu évoluer. Et en même temps, c'est que, en fait, c'est des gens comme nous.
Il y a votre vision, et il y a peut-être aussi celle de ceux qui vous entourent. Comment les gens réagissent quand vous leur expliquez que vous êtes visiteuse bénévole de prison? Est-ce qu'il y a aussi des réactions un peu hostiles, du genre « et les victimes dans tout ça ?» Vous voyez?
J'ai quand même beaucoup plus souvent des réactions positives. Être visiteur ou visiteuse en prison, pour moi, ça inclut totalement le fait de ne pas oublier qu'il y a aussi des victimes. Et puis, plus ponctuellement, des réactions plus hostiles ou négatives. Par exemple, certains visiteurs disent qu'on a pu leur dire « mais t'as pas mieux à faire ». Voilà. Hein, donc, sur ce ton-là, c'est la vision des gens qui considèrent que les personnes qui sont emprisonnées le méritent et doivent en fait souffrir, quoi. C'est cette vision un peu vengeresse de la peine qui, je pense, n'est pas forcément la plus constructive. J'ai une conviction, c'est que vraiment, on a tous un côté lumineux et un côté sombre. Et donc, on peut trouver un côté lumineux chez toutes les personnes qu'on visite en prison. Et on peut se questionner aussi, nous, chacun, chacune, sur notre côté sombre. Je trouve que ça donne un sens à ma vie de m'engager dans la société. Voilà.
L'engagement des visiteuses et des visiteurs de prison est encadré par les services pénitentiaires et l'ANVP, 4 initiales pour désigner l'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice. Le leitmotiv de l'ANVP, c'est accompagner pour reconstruire. Les visiteurs se rendent en détention, dans les parloirs, derrière les barreaux. Ils peuvent aussi assister les condamnés en milieu ouvert, les condamnés non incarcérés, sous bracelet électronique. Régulièrement, l'association organise des séances de recrutement pour les candidats visiteurs. Romane Brizard a assisté à l'une de ces séances dans un café parisien. Ce soir-là, le recruteur se prénomme Jean. La candidate a rempli un questionnaire avant d'arriver au rendez-vous près des Champs-Élysées.
Donc je m'appelle Swan, j'ai 27 ans, j'habite et travaille à Paris dans le conseil en stratégie et aujourd'hui je m'engage auprès de l'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice et donc j'en suis au début des démarches de cet engagement pour devenir visiteuse de prison.
Donc bonjour Swan.
Bonjour Jean.
C'est pas la première fois qu'on se contacte, on s'est eu au téléphone, on se tutoie maintenant. Donc je pense que l'intérêt de cet échange qu'on va avoir aujourd'hui, c'est un peu de vérifier si ton projet, il est compatible avec ce qui se passe en prison et puis l'association, la NVP, dans laquelle tu cherches à rentrer. Ça te va comme ça ?
Oui, très bien, parfait, merci beaucoup.
On attaque un peu le questionnaire ?
Oui, voilà. Très bien.
Tu as eu le temps de le parcourir. Ce questionnaire qu'on propose à chaque nouvel arrivant, tu as vu qu'il est fait pour se mettre en situation et qu'il y a des questions, à mon avis, c'est pas facile d'y répondre, même pour moi, qui ai une certaine pratique. C'est juste pour essayer de se projeter. Hein. Mais j'aime bien les premières questions. Donc la première question, elle est autour de à quoi ça sert un visiteur ? Trouver des solutions, venir à la rencontre, apporter une aide, je sais pas. Est-ce que tu as été tenté de cocher toutes les croix, d'en cocher qu'une ? Comment tu as réagi par rapport à ça ? À ton avis, quelle projection tu te fais de à quoi ça sert un visiteur ?
Pour moi, c'est une relation, une situation qui est très simple. Donc je pense que le plus facile pour moi, c'était d'exclure certains points, du type faire la morale, apporter une aide spirituelle, des choses comme ça qui sont absolument pas dans le contexte. Trouver des solutions non plus, ça me semble pas inclus dans la situation. En revanche, agir concrètement pour la réinsertion, c'est vrai que c'est indirect comme impact qu'on a avec le détenu, mais c'est dans ce cadre-là que ça me semble intervenir.
Oui, tout à fait. C'est un point super important quand on rentre à la NVP. On a un principe qui est d'accueillir toutes les personnes, de croire que toute personne a un avenir, y compris celles qui sont détenues. Et nous leur apportons une écoute inconditionnelle. Une écoute, ça ne veut pas dire qu'on est là pour leur faire la morale, surtout pas. Et ce qu'on a l'habitude de dire à la NVP, c'est qu'il faut que le visiteur trouve une juste distance. Il faut qu'il soit suffisamment en empathie avec la personne qu'il écoute pour être vraiment dans une écoute. Mais il faut aussi qu'il garde une distance pour ne pas être trop impliqué dans l'affaire, ne pas être manipulé par la personne ou par la situation. Et ça, bah d'abord, on est incapable de savoir a priori comment on va se comporter dans ce genre de situation. Donc la NVP propose des formations qui reposent beaucoup sur des jeux de rôle, sur comprendre quelles sont les situations, quelles sont les difficultés. Et il y a quand même une limite à ça, c'est que c'est la limite qu'on peut supporter, nous. Et donc on a tout à fait un droit de retrait en disant bah non, là j'y arrive plus, ou non, là je me sens pas de prendre cette situation. C'est un droit, bien sûr qu'on a ce droit. Et puis, j'avais dû te le dire au téléphone, quand on arrive, quand on est nouveau visiteur pendant un certain temps, eh ben on a aussi un tuteur à la NVP et on en discute avec cette personne. Et après, on participe même à des groupes de parole qui permettent justement de revenir sur ces cas-là. Mais ça, on le vit tous, hein, la maîtrise de ses émotions ou la difficulté de maîtrise de ses émotions.
D'accord.
Bon, il y a les questions autour justement du choix du détenu. Il y a des questions un peu provocantes. Quelle serait ta réaction si tu rencontrais vraiment, il y a les cas les plus qui choquent le plus, peut-être, hein, les actes de pédophilie, les violences sexuelles. Comment t'as réussi à répondre à ces questions ? C'est pas simple.
Oui, non, c'est effectivement très difficile. Je te rejoins dans ce que tu disais juste avant, de dire c'est une écoute en fait qui ne doit pas être conditionnée par ce qu'a fait la personne, mais néanmoins on a nos limites. Et c'est vrai qu'il y a certaines catégories que je vais communiquer en appréhension, dans le sens où ce ne sera pas un refus de ma part de rencontrer ces personnes-là. Mais c'est vrai que si le détenu ressent le besoin de partager les causes de sa peine, à ce moment-là, je ne sais pas très bien comment je vais réagir. J'aurais besoin d'avoir cette liberté de me dire j'arrête la relation, parce que dans ces conditions-là, je ne pourrais pas.
Il y a une chose, c'est qu'en tant que visiteur, on ne pose pas la question de la raison pour laquelle la personne est en détention. C'est sa liberté. On lui dit, très vite, on lui dit, bah, si vous voulez, on en parle. Si vous voulez, on n'en parle pas. En tout cas, nous, on ne vient pas vous voir pour ça. Et moi, ce que je remarque, c'est que très vite, quand la confiance s'installe, le détenu nous en parle.
D'accord.
Parce que ça occupe sa journée. C'est très difficile pour lui de mettre les choses de côté. Et c'est là que retrouver cette distance, en discuter avec un tuteur, en discuter en groupe de parole, ça aide à continuer à voir la personne et à rire avec la personne. On arrive à être dans une relation qui peut être plaisante avec la personne. Heureusement, on y arrive.
Okay.
Bon, bah, écoute, nous, on est tout à fait contents de t'accueillir. Hein, voilà. Super. Et on va laisser le processus se poursuivre, si tu donnes une suite, hein, bien sûr, à ce processus.
Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ravie de poursuivre vers les prochaines étapes.
Merci, Swan.
Et celui qui supervise tous ces visiteurs bénévoles de prison, c'est Yves-Marie Briand, le président de l'ANVP. Il est venu assister à la fin de ce recrutement.
Yves-Marie Briand, retraité, donc depuis 6 ans, et engagé à l'ANVP depuis bientôt 18 ans, et j'assure la présidence depuis 3 ans.
Aujourd'hui, on en est où, justement, par rapport à la réinsertion des détenus en France ?
On n'a pas de statistiques qui pourraient dire que toutes les personnes qui ont été visitées par un visiteur n'ont jamais récidivé. Ça serait génial si on avait ça. Par contre, il y a un vrai problème dans la notion du parcours carcéral. Une personne sur deux, en 2020, avait déjà été condamnée. Donc ça veut dire que la prison et le temps de condamnation n'ont pas forcément apporté un passage significatif pour ne pas récidiver. Alors je pense qu'il ne faudrait pas forcément seulement enfermer, mais il faudrait accompagner. Et je pense que notre société, elle ne réfléchit pas suffisamment dans le préventif.
Vous, les visiteurs bénévoles de prison, vous êtes les témoins privilégiés de ce qui se passe, notamment entre les murs de ces centres de détention. Qu'est-ce que vous voyez, en fait ?
Une cellule type, c'est 9 mètres carrés. Donc la cellule, pour la zone pour se déplacer, une fois que vous avez retiré le lit, la table, les chaises, il y a 3-4 mètres carrés pour se déplacer. Quand vous êtes une personne, c'est déjà pas simple. Quand vous êtes deux, vous allez forcément vous cogner. À trois, c'est invivable. La France a voté, a été d'accord pour dire l'enfermement, c'est de l'encellulement individuel. Une place, une personne, une cellule, une personne. On en est très très loin aujourd'hui. On a eu tout cet été, notamment les prisons du Sud, Nîmes, Perpignan, avec des taux de 220% de personnes incarcérées. Et la surpopulation, elle engendre une difficulté à l'accès aux possibilités de travail, aux soins. Toutes les activités sportives, culturelles, elles vont être limitées aussi. Donc tous ces temps d'échange, de rencontres, ça va les réduire forcément. On dit qu'il y a plus de 33% des personnes incarcérées qui auraient besoin d'un suivi somatique, psychologique, et dedans. Mon établissement, il y a 600 personnes. Il y a un psychiatre quand il peut être là. Il y a 3 psychologues, les infirmières, je ne sais pas, mais c'est extrêmement limité, quoi, dedans. Donc faire un accompagnement pour toutes ces personnes qui sont en souffrance, c'est extrêmement difficile. On ne peut pas imaginer de faire la réinsertion dans ces conditions-là. Nous, on n'a pas à être psychologue, on n'est pas dans le soin, mais on perçoit ces difficultés. Et c'est justement là la force d'être visiteur, c'est qu'on n'a aucune possibilité, on ne peut rien faire. On ne peut pas changer leur situation. Par contre, de les écouter, et ils savent qu'ils vont être écoutés, ça va modifier leur perception de leur situation. Ils vont pouvoir évoquer des sujets qu'ils ne peuvent pas évoquer, de vie, de mort, de foi, de croyance, de sexualité, parce qu'il y a de la sexualité qui se vit, il va y avoir plein de sujets, donc tous les sujets sont possibles. Après, il faut les gérer dans une limite d'une relation de personne à personne. C'est pas seulement une privation de liberté pour la personne, mais c'est aussi un temps d'amendement, un temps de cheminement pour un retour vers la société, comme on dit, et comme on espère, apaisé. Et c'est là où notre rôle, il va essayer d'être essentiel. C'est les personnes vont rentrer chamboulées, parce qu'elles auront fait des actes terribles pour certains. Mais comment, dans ce parcours, on prend conscience de ce qu'on a pu faire pour un retour vers la société? Aujourd'hui, depuis 42 ans, pratiquement, la peine de mort a été abolie. Donc tout un chacun incarcéré retrouvera la liberté, quoi qu'il a fait. Le rôle de visiteur, c'est de montrer que la société s'intéresse à eux, qu'ils ont une valeur et qu'ils peuvent commencer à réfléchir à un retour vers la société, de retrouver leur propre valeur. Je suis quand même quelqu'un et je ne suis pas seulement quelqu'un qui est passé à l'acte à un moment donné, quoi.
Parfois, les liens qui se tissent entre les détenus et leurs visiteurs perdurent hors les murs. C'est la belle histoire d'amitié qui s'est nouée entre Jean-Paul, visiteur, et Patrick, qui a passé 22 ans derrière les barreaux. Patrick ne savait pas écrire quand il est arrivé en prison. Il a publié un livre avant de retrouver la liberté. Jean-Paul l'a aidé à rédiger cet ouvrage intitulé « Au-delà des murs » aux éditions Ballon. Patrick habite aujourd'hui en région parisienne, Jean-Paul près de Poitiers. Il se téléphone souvent et se donne rendez-vous une fois par an. Romane Brizard et Sandrine Malon ont assisté à leur dernière retrouvaille.
Un Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour Roman. Donc, c'est par là. Donc Jean-Paul, voilà, qui habite juste ici, mon ancien visiteur de prison, qui est devenu mon parrain, et donc que je viens rencontrer aujourd'hui.
Juste comment vous vous sentez quand vous arrivez devant chez Jean-Paul ?
Toujours très heureux.
Ouais, ça vous rappelle des souvenirs ?
Énormément, oui. Et beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection qu'on a l'un pour l'autre. Bonjour Jean-Paul.
Ça va ? Tu vas bien ? Et vous, pourquoi vous vieillissez pas, vous ? Comment ça se fait, ça ?
Mais parce qu'on prend exemple sur toi.
Toujours aussi jeune, vous.
Bonjour Jean-Paul.
Voilà, bonjour.
Bonjour.
Bien, bien.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Enchantée, je suis Romane.
Enchantée, d'accord.
Et voici Sandrine. Ah, Sandrine
d'accord, vous
travaille.
Êtes deux. Oui. D'accord, très bien. Belle rentrée. Hein. Très bien, installez-vous.
Super.
Ça fait déjà un an qu'on ne s'est pas vu.
Bah, on s'est vu avant les grandes vacances.
Au mois de mai.
Au mois de mai.
Voilà.
Ouais, ouais.
À l'amitié et à l'amour.
Exactement. Et au bonheur.
Et au bonheur. Ah, et à toutes les belles rencontres.
Et à la réussite.
Et à toutes les mains tendues.
La réussite aux mains tendues.
Bon.
Ouais.
Allez, vas-y, assis-toi.
Votre vie, elle a drôlement changé.
Ah oui, complètement. Complètement. Donc, je m'appelle Patrick, j'ai 54 ans aujourd'hui, j'ai 22 ans de prison derrière moi, totalement réinséré. Je travaille en tant qu'expert en recherche de fuite pour les assurances lors des dégâts des eaux. J'ai rencontré Jean-Paul, ça fait 7 ans maintenant. Je suis sorti de prison il y a 5 ans, donc ça a été mon visiteur de prison. Et aujourd'hui, c'est mon parrain, mais c'est également mon ami. Je me suis marié depuis 5 ans aussi, et ma vie a totalement changé. Et aujourd'hui, je suis enfin quelqu'un d'heureux. Tout a commencé très tôt en fait. Hein. J'ai grandi dans une famille qui était un petit peu éclatée, un père alcoolique, un père violent, des placements au foyer à partir de l'âge de 8 ans. À l'âge de 14 ans, quand je suis revenu chez mes parents, j'ai quitté le domicile familial. Donc j'ai commencé à traîner avec des grands du quartier. Puis après, c'était la descente aux enfers, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne. Vraiment, j'ai goûté un petit peu à tout. Donc c'était la déchéance, c'était 16 ans la première prison, 18 ans le grand quartier de Fleury-Mérogis, 20 ans rebelote, et puis ensuite j'ai commencé à rencontrer des trafiquants aguerris, des gens qui avaient un autre âge que le mien, qui étaient beaucoup plus âgés, et ensuite je suis rentré dans la délinquance, les grands trafics et des grandes années de prison. Ma plus grosse condamnation, c'était 17 ans et 8 mois pour trafic de stupéfiants. Et quand j'étais arrêté en Espagne, j'étais extradé d'Espagne et que j'étais condamné à 17 ans et 8 mois de prison, je me suis retrouvé à la prison de Nantes. J'étais placé au mitard pour 40 jours. J'ai voulu me pendre pendant que j'étais au mitard. Donc j'ai attendu le passage du surveillant. Je l'ai entendu regarder à l'œilleton. Je l'ai entendu s'éloigner. J'ai entendu la grille qui s'ouvre quand il sort du mitard. Sauf que ce surveillant, je ne sais pas pourquoi, il a fait demi-tour. Je ne le savais pas. Il a regardé à l'œilleton, il a lancé l'alarme, il est venu s'asseoir à côté de moi quand ils ont ouvert la porte. Il m'a dit que c'était vraiment pas sa place d'être à côté de moi puisque son propre père a été tué par un voyou. Mais je vais te dire au moins une chose, c'est que quoi qu'il arrive dans ta vie, même si t'en as marre, t'as le droit d'en avoir marre. Mais une chose que t'as pas le droit, c'est de laisser cet héritage à tes enfants. Et j'ai compris qu'effectivement, il avait raison. Et c'est ce qui m'a permis de rebondir complètement et de changer mon fusil d'épaule. Et j'ai fait une première tentative pour m'en sortir complètement. J'ai commencé à travailler, j'ai coupé les ponts avec presque tout le monde, pas tout le monde malheureusement, ce qui m'a coûté une dernière condamnation. Et là, en faisant le point sur moi-même, sur ma vie, sur mes échecs, j'ai pris la décision de couper définitivement les ponts avec toutes mes connaissances du passé, parce que je savais que c'était la clé pour s'en sortir. Et c'est là que ma vie a totalement changé. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Paul, y compris mon épouse.
C'est quand même... tu as eu dans ta vie quand même plusieurs points comme ça,
ouais.
De rencontres, de situations qui ont créé un déclic. plusieurs fois.
Mais de toute façon, c'est ce que je dis à un moment donné dans mon livre, c'est que la vie, elle est faite de rencontres.
Tout à fait.
Et de bonnes comme de mauvaises. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de mauvaises rencontres au départ de ma vie. De toute façon, pour s'en sortir, même si 80% du travail il nous appartient, les 20% qui restent, c'est toutes les mains tendues que tu peux trouver. C'est tous ensemble que la réinsertion, elle est possible. Seule, c'est vraiment quasiment impossible. On est face à un mur, quoi.
Alors justement, en parlant de mains tendues, parlez-nous de celle de Jean-Paul, peut-être.
Mon pauvre Jean-Paul. C'était mon déversoir. C'était celui que je voyais toutes les semaines et à qui je pouvais raconter toutes les misères qu'on me faisait au quotidien, toutes les déceptions que je pouvais avoir par moment, mais aussi tous les plaisirs et toutes les choses qui avançaient dans le bon sens. C'était le premier témoin, d'ailleurs, de ma rencontre avec Négia, le premier à qui je me suis confié. Je pense qu'il a su que j'étais amoureux de Négia avant elle, quoi. Donc, parce que c'est vrai qu'on en parlait.
Oui, oui.
C'était ma petite échappatoire, c'était ma petite fenêtre, c'était mon petit côté soleil, quoi. Je veux dire, on pouvait parler de tout. On parlait de religion, on parlait de la vie, on parlait de l'éducation, des enfants, parce que j'avais mes enfants que je voyais pas à ce moment-là. Puis c'est vrai que d'avoir le regard de Jean-Paul, qui était déjà quelqu'un de neutre au départ, le fait qu'il me donne sa confiance, pour moi, ça a été une clé vraiment énorme. De le voir s'intéresser finalement à tout ce que je disais, il m'a beaucoup redonné confiance en moi aussi. Et ça m'a énormément aidé, bien sûr. Et en plus, j'ai toujours pu compter sur lui. C'est vrai qu'il a été là à chaque fois que j'ai eu des difficultés avec la pénitentiaire pour mes permissions. Quand on m'a imposé d'avoir quelqu'un à l'extérieur pour m'emmener dans mes démarches, il a toujours répondu présent. Et aujourd'hui, si je m'en suis sorti, je lui dois énormément pour toutes ces choses. Oui.
Aussi, sur l'aspect spiritualité, quand même,
oui.
C'est important pour toi.
Oui,
tu as des, alors, ce n'est pas moi qui ai abordé le sujet, c'est toi. Parce que nous, en tant que visiteurs de prison, on ne doit pas faire de prosélytisme. Donc, il n'en est pas question. Par contre, si un détenu souhaite parler de spiritualité, de ce à quoi il croit dans la vie, bien sûr que c'est aussi un sujet sur lequel on doit échanger. Et ça m'a fait très plaisir quand tu m'as fait la proposition. Tu m'as dit, est-ce que tu veux être mon parrain? C'est sûr que c'était...
Pour moi, c'était une évidence.
Oui, moi aussi.
C'est ça.
Pour moi aussi, c'était une évidence. Il y a quand même des phrases qui m'ont marqué. Par exemple, le jour où tu me dis... Finalement, la prison, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que c'est là que j'ai appris à lire, à écrire. Parce que l'école, tu n'y avais quasiment pas été à l'école. Hein.
Après, ce que je dirais de la réinsertion, en fait, c'est que, quels que soient les échecs qu'on a pu connaître, quel que soit l'âge qu'on a, elle existe quand même dans le sens où on peut toujours la construire. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer. Il va rechuter une fois, il va rechuter deux fois. Je suis ancien fumeur, j'ai fumé pendant 35 ans. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai arrêté de fumer. Et j'ai connu plusieurs échecs, j'ai rechuté plusieurs fois. Mais aujourd'hui, j'en suis la preuve, j'ai arrêté de fumer. Et je pense que la réinsertion, la délinquance, en tout cas, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on a connu un échec, deux échecs, c'est pas parce qu'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans qu'on peut pas y arriver. Il m'a fallu beaucoup de temps, je m'en suis sorti à l'âge de 50 ans, mais il n'y a pas d'âge pour s'en sortir. Et vraiment... Tout le monde peut s'en sortir. Ça dépend des rencontres qu'on fait, ça dépend des mains tendues qu'on va trouver, mais c'est toujours possible de s'en sortir et j'en suis vraiment la preuve. J'y suis arrivé parce que je suis tombé sur un visiteur de prison qui était hors norme. J'y suis arrivé parce que j'ai rencontré des détenus qui m'ont aidé. J'y suis arrivé parce que j'ai rencontré un employeur qui m'a fait confiance et qui me fait confiance encore aujourd'hui. J'y suis arrivé parce que j'ai eu une mère extraordinaire qui a toujours cru en moi, qui est venue me voir dans toutes les prisons que j'ai fait. Elle est illettrée, elle est venue jusqu'en Espagne me voir. J'y suis arrivé parce que j'ai rencontré une femme extraordinaire qui a cru en moi et qui m'a pris comme j'étais.
Si vous êtes là, assis sur ce canapé à côté de Patrick, c'est que ces visites-là, elles vous ont aussi apporté à vous ?
Bien sûr. Donc, ça fait à peu près 10 ans que je suis visiteur de prison. Mais au début, c'est vrai que, vu de l'extérieur, la prison, c'est un milieu, on n'a vraiment pas envie d'y aller. J'y suis allé, moi, parce que ma maman a fait visiteuse de prison pendant une dizaine d'années également.
Et donc, une fois à la retraite, je me suis dit, ben, j'ai un peu de temps, je peux peut-être rendre service. Et... Mais j'y allais vraiment avec des, comment dire, des a priori, bien sûr, plein d'a priori. Et d'ailleurs, la première fois qu'on va là-bas, quand, dans une cellule, on se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Sur qui je vais tomber? Est-ce que je vais me faire agresser? Enfin bon, c'est un peu particulier les premiers moments. Mais en fait, au bout du compte, j'ai fait des rencontres humaines en prison. Incroyable, quoi. Incroyable. Alors, évidemment, Patrick, c'est la plus forte, on va dire, mais il y a plein de, alors que c'est un milieu où on se dit, mais c'est le rebut de la société, la prison. Et en fait, on s'aperçoit que même dans ces coins, on se dit, bah, c'est pas là où il y a le plus d'humanité. Eh ben, si, en fait, on trouve beaucoup, beaucoup d'humanité. J'ai fait plein de rencontres intéressantes, mais celle de Patrick est quand même exceptionnelle. Exceptionnel.
Visiteur de prison, une lumière derrière les barreaux, c'était un reportage de Roman Brizard. À la prise de son, Virginie Lorda et Sandrine Malon. Réalisation, Charles De Silia, assisté de Louise Cognard. Mixage, Julien Doumanc. Vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast sur franceinter.fr.